VOA Afrique, les infos à Washington.
Idriss Fall, au Sri Lanka, le bilan des attentats qui a frappé des hôtels de luxe et des églises catholiques célébrant Pâques est monté à plus de 207 morts et 450 blessés au moins. Trois églises catholiques et quatre églises ont été attaquées. Huit explosions au total se sont produites dans l'île. Une vague d'attaques qui n'a pas été revendiquée à ce stade. Et l'archevêque de Colombo a appelé le gouvernement du Sri Lanka a puni sans pitié les responsables de ces attentats. Le président américain Donald Trump a condamné ces attaques horribles et s'est dit prêt à apporter son aide. La première ministre britannique Theresa May, dont le pays avait colonisé le Sri Lanka, a dénoncé des actes de violence réellement effroyables et exprimé toute sa solidarité avec le peuple sri-lankais. Pour le président français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine s'attend à ce que les responsables de ce crime aussi cynique et haineux soient punis comme ils le méritent. Et dans son message traditionnel de Pâques, le pape François a bien sûr condamné ces attaques au Sri Lanka et a aussi souhaité que les armes cessent d'ensanglanter la Libye. Mais sur le terrain, les combats ont redoublé de violence samedi après une contre-attaque des forces du GNA dans la banlieue sud de Tripoli. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, Fatih Bachaga, a accusé jeudi la France de soutenir l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar. Paris a démenti des déclarations qualifiées d'infondées. Depuis le début de cette offensive, selon l'OMS, les combats ont fait au moins 227 morts, plus de 1100 blessés et quelques 30 000 déplacés. Au Mali, au moins 12 soldats ont été tués par des djihadistes présumés qui ont attaqué un poste de l'armée à Guiré, près de la frontière avec la Mauritanie. Le 17 mars, une autre attaque contre un camp de l'armée à Djoura, dans le centre du pays, avait coûté la vie à près de 30 soldats. Samedi, un casque bleu égyptien a été tué par l'explosion d'une mine au passage de leur convoi sur l'axe Douenza-Boni, dans le centre du pays. À Madagascar, les électeurs sont convoqués aux urnes le lundi 27 mai pour l'adoption d'un projet de révision de la Constitution pour la suppression du Sénat et accorder plus de pouvoir aux autorités régionales. C'était des promesses électorales du président Ange Rajoel. Cette révision constitutionnelle est prévue le même jour que les élections législatives.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a affirmé l'engagement du conseil militaire à transférer le pouvoir au peuple, comme l'exigent des milliers de manifestants. Dans sa première interview depuis sa prise de fonction le 12 avril, il a précisé que l'armée répondrait dans la semaine aux demandes des manifestants qui réclament toujours le transfert du pouvoir à une autorité civile. D'ailleurs, les meneurs de cette contestation devaient dévoiler aujourd'hui la composition de l'autorité civile. Les manifestants restent toujours rassemblés par milliers devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les Soudanais sont descendus dans les rues le 19 décembre après l'augmentation du prix du pain. Ce mouvement s'est transformé en demandant le départ de Omar el-Béchir qui a été écarté le 11 avril. En Égypte, les bureaux de vote ont ouvert pour le deuxième jour du référendum sur une révision constitutionnelle pour prolonger la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi. Le scrutin qui semble jouer d'avance se tient à travers le pays sur trois jours jusqu'à demain, lundi 22 avril. En Arabie Saoudite, le groupe État islamique a revendiqué une attaque menée aujourd'hui contre un siège des services de sécurité à Zulfi, au nord de Riyad.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Eric Manila Kiza avec vous, fidèles auditrices, fidèles auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme. La pratique de donner la dîme à Dieu, c'est-à-dire la dixième partie de son revenu, est une très vieille histoire. Cela commence avec Abraham, qui s'appelait alors Abram. Lorsqu'il revient vainqueur après avoir délivré Lot, son neveu, il donne la dîme de tout au sacrificateur Melchisédek. Plus tard, Jacob décide aussi de donner la dîme à Dieu. L'expression « donner » montre qu'il le faisait de leur plein gré. Ensuite, cela devient une obligation légale, comme le dit la Bible dans Lévitique. Et la dîme devient la ressource des Lévites qui faisaient le service du temple. On a l'équivalent de la dîme chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle la zakat, qui incarne le troisième pilier de l'islam. Et la zakat fut instituée à Médine la deuxième année de l'Égir. On donnait donc la dîme, ça date de très longtemps, mais doit-on aujourd'hui donner la dîme? À quoi ça sert? Est-ce une obligation? Est-ce que si on ne donne pas la dîme, on ne verra pas le royaume de Dieu? Nous avons en invité en ligne le père Gérard Moret, qui est à New York. C'est le curé de la paroisse Sainte-Famille à New York. Mon père, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons un deuxième invité, c'est une invitée, Kadiatou Traoré. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue Religion de la Voix de l'Amérique.
Nous avons aussi des auditeurs qui vont participer dans cette émission. Mon père, je vais commencer par vous. La dîme, aujourd'hui, est-ce que les gens la donnent? Autrefois, c'était une obligation, mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une obligation.
Bon, selon l'Église catholique, tous les fidèles ont l'obligation de soutenir les œuvres de la religion. Alors, ils ont l'obligation de soutenir leur paroisse et en général les autres œuvres de charité, d'éducation, d'aide financière aux pauvres. Mais c'est une obligation qui n'est pas précisée sur le 10% des revenus. C'est pas que si vous ne payez pas 10% de ce que vous gagnez, que vous serez hors de la loi de Dieu. Non. Maintenant, l'Église laisse à la discrétion des fidèles de décider combien ils voudraient donner comme offrande de l'Église, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une obligation générale. On doit soutenir les frais de l'Église parce que l'Église, c'est pas un négoce, c'est une œuvre de prière, c'est une œuvre de Dieu qui dépend de la générosité des fidèles.
Est-ce que ne pas donner est-ce un péché?
Bon, de donner rien, ça signifierait si on peut donner, parce qu'il y a des pauvres qui n'ont pas les moyens de donner à l'Église, ces gens-là ne sont pas obligés, mais ceux qui ont de l'argent et qui refusent de donner à l'Église, c'est vraiment offense en contre de Dieu. Ça dépend de leur conscience de cette obligation, mais je pense que les chrétiens qui ont un peu de catéchisme, ils sont conscients que l'Église dépend de la générosité des fidèles. Dans mon expérience, dans une paroisse francophone à New York, les fidèles africains étaient très conscients de leur obligation de soutenir la paroisse. et les autres fidèles avaient moins développé ce sens d'obligation et ce sens de faire un don chaque année. Mais ça existe parce qu'en France, vous avez, c'est très connu, le denier de culte. Et quand j'ai fait appel aux Français de participer, un bon pourcentage des fidèles ont répondu que oui.
Oui, est-ce qu'on doit nécessairement donner de l'argent de si on ne donne pas à l'Église, mais qu'on donne à des pauvres ou qu'on aide des personnes en dehors de l'Église?
Oui, non, il y a, c'est, on peut dire, il y a une obligation de soutenir la paroisse, vous assister à la messe, parce que c'est votre maison, on peut dire, la maison de Dieu, c'est la maison des fidèles de Dieu. Alors, et si l'Église n'a pas d'autre moyen de soutenir les frais, de maintenir cette Église, ça dépend des fidèles. Mais on peut aussi choisir, bon, nous avons un couvent des bonnes sœurs, je voudrais soutenir leurs œuvres. Je voudrais faire des dons aux missionnaires qui sont dans d'autres pays. Et ça, c'est un autre moyen de faire le dîme.
Merci. Reste en ligne. Nous aurons sans doute des questions des auditeurs. Nous avons Alphonse Mbouaki qui est à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Voilà.
Par rapport à cette question.
Vous dites que la dîme est une obligation divine. Ça, c'était dans l'Ancien Testament.
Mais même dans les nouveaux, je ne sais pas ce que dit le père, c'est votre intervenant là. En tout cas, je n'ai pas le passage en tête, mais j'ai lu à lire ça concernant la Bible, Dieu qui utilisait les verbes à l'impératif. Donc, c'est une obligation. Ça concerne les revenus, les 10% du revenu mensuel. Et donc, quand on le donne, c'est pour supporter l'œuvre de Dieu. Vous avez dit, il y a des gens qui travaillent dans les sacerdoces. Qui ne vont pas. Allô?
Je vous écoute.
Allô? Qui abandonnent tout et qui travaillent seulement pour le Seigneur, pour Dieu. Donc ces gens-là ont besoin de vivre et d'autres ont besoin de l'Église. Donc c'est pourquoi les fidèles sont obligés de payer la Bible.
Alphonse?
C'est une obligation.
Mais à l'époque, on ne donnait pas la dîme, on mangeait la dîme.
On mangeait la dîme. Oui, à l'époque, c'était où on pouvait utiliser même les revenus agricoles. Si on n'a pas l'argent, on utilisait le bien comme les concepts de manioc et d'autres produits agricoles à l'époque. Mais maintenant, là, comme si tu sors en ville, on utilise l'argent, la monnaie. Donc, je pense que. Si votre intervenant pouvait vraiment bien lire, il verrait le passage où c'est une obligation. Les mots utilisés, les ordres utilisés, c'est à l'impératif. Donc ça prend le temps, même le pasteur, même le conducteur de l'Église, il doit trouver la vie. Ça ne concerne pas toujours
Alphonse,
pas les fidèles.
Alphonse,
ouais.
Dis-moi, combien vous payez chez vous? Vous donnez? Combien vous donnez?
Moi, je donne. Je donne. Je donne l'argent. Ouais. Vous voulez me lancer entre donner et payer. Les vestes, c'est ça?
Oui. Est-ce que vous. On vous oblige de donner en RDC?
On n'oblige pas. On n'oblige pas, mais c'est un fidèle qui a grandi dans la. On doit comprendre que c'est une obligation. Ce n'est pas le passé qui m'oblige, mais c'est la Bible qui le dit à l'impératif. Il faut donner.
Merci Alphonse pour votre contribution. Nous revenons ici au studio à Kadiatou Traoré. On a parlé de la zakat qui est une obligation chez vous.
Ah oui, et c'est tout à fait le contraire chez le musulman. Il est dit quelque part, il a été cité quelque part dans le Coran, bienheureux en vérité sont les croyants qui prient avec humilité, qui dédaignent toute futilité, qui s'acquittent de la zakat. C'est la sourate les croyants numéro 23 verset 1-4 et puis elle est aussi dans la tradition prophétique. Il est dit aussi à ce sujet dans le Saint-Coran prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Et ça aussi, c'est la sourate, le repentir, numéro 9, verset 103. Alors, quand on regarde tout ça et qu'on met tout ça ensemble, la zakat est une obligation dans la religion musulmane pour le musulman et quand il a des avoirs. C'est une obligation. Et qui répond à ces conditions? Il faut d'abord être un musulman, avoir la propriété absolue et totale des biens assujettis à la zakat, et la valeur du bien soit en perpétuelle croissance, et l'atteinte du seuil imposable de la zakat, l'équivalent de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent. Une fois ces conditions remplies, le musulman devrait prélever au moins 2,5% sur l'avoir soumis à l'imposition de la zakat. Et les biens assujettis à la zakat sont divers. Parmi ceux-ci, je peux citer la monnaie, les marchandises, les animaux dans la propriété, et puis les fruits et les céréales. Et tout bien, toute personne qui a un seuil imposable, le seuil imposable de la zakat, toute personne qui a un équivalent de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent, tu dois payer obligatoirement la zakat.
Il y a aussi Hassan Omar qui est en ligne, qui dit que la zakat est effectivement obligatoire. Hassan, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à vous, les journalistes.
Je vous écoute.
Moi, ce qui est très important, moi, je crois que la zakat, elle est obligatoire dans la religion musulmane. Comme si bien dit notre collègue, c'est un élément très important. Mais également, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle la sadaqa. Sadaqa, c'est-à-dire le monde qu'il faut donner aux pauvres. Mais la zakat, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où la personne a les moyens. Donc, lorsqu'il calcule ses biens, que ce soit des marchandises, comme si bien dit votre collègue, soit en monnaie, donc lucratif, parce que vous calculez, et cette somme, une somme de votre somme, doit partir aux pauvres. Souvent, on ne donne pas à la mosquée comme on fait dans la religion chrétienne, où on donne à l'église. Ici, on donne aux pauvres. Donc, même si on donne à la mosquée, il distribue et il offre à ces personnes qui sont démunies, que ce soit des handicapés, des pauvres, des gens qui ont des problèmes, par exemple, psychologiques, donc des gens qui sont marginalisés de la société ou qui ont des problèmes et qui ne sont pas aptes à travailler, donc qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc, c'est une obligation. Et chaque personne, chaque musulman qui a donc le moyen de les payer, c'est obligatoire qu'il paye cette zakat. Alors que c'est différent de la sadaqa, qui est une autre option. C'est une option que chaque personne doit payer. Par exemple, si vous avez un dollar, 10 dollars, 3 dollars, vous pouvez payer. Mais pour la zakat, c'est différent et il faut payer une somme, donc une base qui est, voilà, lorsqu'on calcule, on donne, voilà, une somme, que ce soit en nourriture, si vous avez par exemple le riz, si vous avez par exemple le maïs, le blé, et l'ensemble de nourriture, souvent, qui sont consommées dans ce pays-là ou dans cette société-là, vous les donnez. Et donc, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui revient souvent chaque année. Donc, dans chaque année, la personne, le commerçant, oui.
Merci Hassan pour votre contribution. Il y a aussi Pascal Muganguzi qui dit « La dîme est une obligation pour un chrétien qui a reçu Jésus comme son sauveur et dans un autre sens, elle n'est pas une obligation parce qu'il n'y a personne qui fait le recouvrement. Tout chrétien paie ou donne la dîme volontairement, il n'y a pas non plus de suivi. C'est le point de vue de Pascal Muganguzi. Il y a Kwame qui dit « Le christianisme dans son ensemble s'insurge contre les pratiques anciennes de l'Ancien Testament tout en cautionnant la dîme qui est une forme d'impôt destinée au souverain sacrificateur. » C'est le moyen d'enrichissement illicite de ces bourreaux, un moyen d'enrichissement illicite de certains pasteurs qui demandent sans cesse la dîme aux fidèles. Même les fidèles les plus pauvres doivent donner la dîme. Père Mouret, vous avez suivi ce commentaire de cet auditeur. Comment vous le percevez?
Bon, la connexion était un peu...
Il parlait d'enrichissement illicite et même des églises ou certains pasteurs qui, finalement, en font de commerce.
Oui, non, et c'est un problème à sauvegarder. Et dans l'Église catholique, bien sûr, c'est l'évêque qui surveille sur les paroisses et sur les coutumes et les finances des paroisses. Alors, les prêtres catholiques... en plus de suivi au sujet de l'argent, mais dans une église créée par un pasteur qui parle souvent de l'argent, vous pouvez avoir un grand problème d'abus financiers. C'est une chose, nous avons les églises, et même aux États-Unis, où on prêche des choses, disons, les richesses qui viennent de Dieu, cette signe de bénédiction, et alors on crée une religion de dollars, une religion de richesse, et vous avez des pasteurs ici aux États-Unis qui sont vraiment scandaleux avec le montant d'argent qu'ils gagnent dans leur église, et ça c'est pas bien du tout. L'argent donné à l'église doit servir les œuvres de religion et pas les aspirations financières des pasteurs. Et ça, dans l'Église catholique, la pauvreté est toujours prêchée pour une grande raison. On doit imiter Jésus comme il a vécu. Il dépendait de la générosité des apôtres, des saintes femmes et des amis qui ont soutenu sa vie pendant ses années de vie publique.
Merci, mon père. Nous avons... l'apôtre Diallo en ligne. Bonsoir, apôtre. Apôtre Diallo, vous m'entendez? Je pense qu'il y a une mauvaise connexion téléphonique. On va essayer de le retrouver. Il y a le commentaire de Apollos qui dit Madim est obligatoire. Ah, voilà. Apôtre Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de Crosspoint. On parle de la dîme. Est-ce que la dîme est obligatoire? À quoi ça sert?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, vous savez sûrement toutes les différentes appréhensions et opinions sur la Bible, sur la dîme. Est-ce qu'elle est obligatoire? Avec le Seigneur, rien n'est obligatoire. Je vais expliquer un peu ce que je veux dire. La plus grande offrande, c'est l'offrande du cœur. Proverbe nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux soient sur mes voies. À moins qu'on ne puisse donner son cœur, on ne peut pas donner la dîme.
Oui, donc c'est volontaire.
Notre vie, personne à faire quoi que ce soit. Notre vie de marche avec le Seigneur, c'est une vie de choix et de foi.
Et quelle est l'importance de donner la dîme ou l'intérêt?
L'importance de donner la dîme, c'est numéro un, l'expression de confiance qu'on a à Dieu, une reconnaissance et gratitude que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné la grâce et la force de pouvoir l'accomplir. Donc c'est un acte de gratitude, un acte de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Si j'ai un travail, c'est à cause de Dieu. Donc pour cela, je donne la dîme à Dieu en tant qu'un acte de reconnaissance, une expression d'amour.
Et on la donne à qui?
La dîme, elle est donnée à l'Église.
Et l'Église, c'est-à-dire? Le pasteur ou...
C'est-à-dire l'Église qui va permettre à l'Église de prendre soin des différents fardeaux, de prendre soin des pasteurs, de prendre soin du loyer, de prendre soin de différentes dépenses pour que l'Église en tant que corps puisse fonctionner. Mais la réalité est que c'est à Dieu qu'on la donne. Mais l'extension de la main de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. C'est pour le bien-être du corps de Christ.
Est-ce que c'est limité toujours à un dixième ou on peut donner plus? Et deuxième chose, on voit quand même des situations, disons, inconvenables. Dans certains pays, en Afrique par exemple, des pasteurs qui ont transformé la dîme en fonds de commerce.
Vous savez, je vais répondre d'abord à la première question. Le mot dîme vient du mot un dixième. Est-ce qu'on peut donner plus que ça? Bien sûr, mais ce ne serait plus une dîme. Une dîme, c'est un dixième. Donc, tout ce qui vient au-delà du un dixième, c'est une offrande. Ça peut être une offrande d'amour ou une semence. Donc, le mot dîme vient de un dixième. Maintenant, en parlant de ce que des pasteurs en Afrique ou ailleurs ont transformé ça en commerce, je dirais, bon, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de toilette. Les gens ont toujours abusé de la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, mais nous devons se tenir à faire ce qui est juste et ne pas arrêter de faire ce qui est juste parce que certains individus ont perverti la chose, vous comprenez?
Il y a ma consoeur Kadiatou qui semble ne pas être d'accord avec vous.
Oh non, moi, j'écoute, mais je pense que pour moi,
Diallo, c'est,
même
il était
si,
musulman.
Moi, mon opinion, même si on ne regarde pas, c'est dans la religion, c'est un acte religieux, c'est Dieu qui a demandé de le faire. Et bon, la religion chrétienne dit que non, c'est pas une obligation. Chez nous, c'est tout le contraire. Je suis musulmane en tant que musulmane et je parle sous le couvert des versets du Coran, de ce que le prophète Mohammed nous a enseigné, les hadiths et tout. Mais je pense que la reconnaissance envers Dieu, donner quelque chose à Dieu, devrait aller directement tomber dans les mains de ceux qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire créer une solidarité et puis pour mettre un peu l'équilibre dans la justice sociale. Il y en a qui en ont suffisamment, il y en a qui n'en ont pas. Et obliger l'être humain à être solidaire vis-à-vis de son prochain. Moi, je pense que c'est très important et c'est tout le caractère moral et éthique et que la religion aussi peut donner aux avoirs.
Père Moret, vous avez suivi les propos de l'apôtre Diallo. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il y a une convergence avec l'Église catholique?
Dans ce qu'il dit, qu'il y a toujours un système qui est bon en soi-même, mais il y a des abus, il y a des gens malhonnêtes qui utilisent l'argent d'une manière qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais le point qu'on doit dire, c'est vraiment ce qu'il dit notre cher ami musulman, que offrir l'argent à l'Église, c'est une offrande à Dieu, c'est un acte de religion, c'est un moyen d'exprimer que la foi n'est pas seulement une idée dans la tête, mais c'est une réalité vécue. Et on ne peut pas dire je vais à l'Église, je prie, mais je ne donne rien. Ça ne fait pas de sens.
Est-ce que vous donnez, on doit absolument donner de l'argent?
Oui, il faut soutenir l'Église d'une manière qui exprime un sacrifice dans la vie et louange à Dieu, parce que vraiment, donner l'argent, c'est louer Dieu.
Est-ce que, par exemple, si vous avez perçu votre salaire, que vous ne pouvez même pas couvrir votre loyer, est-ce qu'il faut toujours donner le dixième?
Ah, non, c'est pour cela on dit dixième, c'est ce qui dit la Bible, ça signifie quelque chose pour maintenant l'Église dit c'est une indication, mais c'est pas une obligation. Mais obligation de donner quelque chose. Et même nous sommes tous riches des heures de la journée, on peut dire le temps à l'Église pour travailler, pour faire du bien.
Merci apôtre Diallo. Apôtre Diallo. Allô. Apôtre Diallo, vous m'entendez?
Et si l'apôtre Diallo n'est pas là, on peut toujours conclure. Hein. Donner la zakat revient à promouvoir une fraternité, la justice sociale. Et tout comme il s'agirait d'opter pour un développement durable, dont les bienfaits seront palpables pour tous les membres de la société. Ça, c'est...
Merci beaucoup. Apôtre Diallo, je ne sais pas si vous êtes encore là. Apparemment,
on conclut avec ça.
On conclut avec ça. Merci pour votre contribution. C'est un sujet intéressant. On pourra peut-être y revenir plus tard. Et c'est la fin de ce dialogue des religions. Bonne soirée à tous. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.